Bonjour à tous. Je vais me descendre un petit peu. Je suis heureuse d'être avec vous. Ça fait longtemps, je me suis rendu compte que je n'étais pas venue. C'est toujours avec plaisir que je viens à Thonon. Il faut cette occasion-là, hein, parce que on est, même si on n'est pas loin, on est pris chacun dans nos habitudes et, voilà, et nos occupations. Et je vais vous transmettre aussi toutes les salutations de l'Église et de Nordine pour vous, hein, ce matin. Pour ce matin, donc, de nombreux textes dans notre Bible parlent de l'encouragement. C'est un mot bien utilisé, y compris de nos jours. Mais il y a un autre mot qu'on trouve dans nos Bibles, c'est l'exhortation. C'est un mot que l'on utilise peu dans le langage courant, mais c'est un mot que nous retrouvons dans nos Bibles. Et personnellement, avec ma culture d'enfant baigné dans ce qu'on appelle le patois de Canaan, je fais la différence entre l'encouragement qui est plus près de l'empathie, du réconfort, et l'exhortation qui nous met le curseur vers l'incitation, la stimulation. Je pense qu'on a chacun sa sensibilité face à ces mots. Et ce matin, je vais vous donner quelques exhortations faites par Paul et qui m'ont fait beaucoup réfléchir à ma façon de vivre. Les épîtres de Paul sont des textes très riches qui nous permettent d'approfondir notre théologie, notre connaissance de Dieu et de son œuvre de salut. Mais elles contiennent également des exhortations très concrètes qui nous questionnent sur notre manière de vivre au quotidien. Le texte de ce matin se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens. Il se trouve dans le dernier chapitre de l'épître, au chapitre 4, et c'est sur ces recommandations que Paul adresse aux Philippiens que je vais m'arrêter. Donc, Philippiens 4, 4 à 9. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors, le Dieu qui donne la paix sera avec vous. J'ai retenu 4 points que je vais développer avec vous. Tout d'abord, un appel à se réjouir. Ensuite, un appel à être aimable. Un appel à ne pas s'inquiéter. Et un appel à rechercher ce qui est bon. Et je développerai plus longuement le 4e point. Tout d'abord, l'appel à se réjouir. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. C'est une exhortation assez surprenante, car est-ce qu'on peut se forcer à se réjouir? Et pourtant, Paul commence par cette recommandation. Et cela nous pose la question, qu'est-ce qui nous réjouit? Une bonne nouvelle? Un cadeau, les vacances. une fête, un bon repas, un partage avec des amis. Et nous sommes ici ce matin. Ce qui nous réjouit aussi, c'est la réponse à nos prières, un moment de louange avec nos frères et sœurs. Toutes ces choses sont bonnes et nous réjouissent. Et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Cependant, toutes ces choses dépendent des circonstances de notre vie. Dans ce verset, Paul nous invite à nous réjouir en tout temps. Et de quoi devons-nous nous réjouir? De ce que le Seigneur est pour nous. Et cela m'a fait réfléchir. On se réjouit dans nos louanges de la grandeur de Dieu, de sa puissance, de sa grâce, de son amour, de son pardon. Mais souvent, et je le dis pour moi, on reste dans la généralité. Et Paul invite chacun de nous à se réjouir de ce que Dieu a fait dans sa vie. Et je dois apprendre à me réjouir de chaque moment que je peux passer dans sa présence, dans la relation avec lui. Je dois apprendre à me réjouir de chaque expérience qu'il me fait vivre et qui me permet de me rapprocher de lui. Et c'est vrai que cela change complètement notre façon de voir. Si nous vivons dans cette communion avec Dieu, chaque circonstance de notre vie sera vécue avec un autre regard. Cet appel à se réjouir, à vivre dans la joie, est répété tout au long de l'épître et est vraiment une particularité de la lettre aux Philippiens. Et elle conditionne aussi les autres exhortations. Et le point suivant, l'exhortation suivante, est l'appel à être aimable. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. D'autres traductions parlent de douceur ou de bonté. Dans notre monde, être trop aimable ou doux est considéré comme une faiblesse. Et l'on a peur de devenir une personne effacée qui ne sait pas défendre son opinion. Je pense qu'il ne s'agit pas de cela. Nous devons être fermes dans nos positions, savoir refuser les compromis malhonnêtes, être, comme on dit, droit dans ses bottes. Ce qui est différent du monde, c'est que tout cela doit se faire dans le respect de l'autre, sans amertume ou rivalité, sans méchanceté, en veillant sur notre façon de parler et notre comportement. Apprenons à nous faire respecter pour notre droiture, notre fermeté, notre engagement, que l'on soit reconnu comme une personne de confiance à qui l'on peut parler, qui ne méprise personne. Nous sommes appelés à haïr le mal, pas le pécheur. Et ce n'est pas une tâche facile dans certains milieux plus que d'autres. Mais c'est à cela que nous sommes appelés, être connus pour notre amabilité. Soyons des personnes accessibles, des personnes de confiance sur qui l'on peut compter. La troisième exhortation, qui se trouve au verset 6, est l'appel à ne pas s'inquiéter. Ne vous mettez en souci pour rien. Facile à dire. Hein? Il y a des personnes plus soucieuses que d'autres. Il y a les pessimistes et les optimistes. Et cela fait partie des différences que l'on considère parfois comme injustes en langage humain. Hein? C'est comme les problèmes de poids. Certains peuvent manger tout ce qu'ils veulent sans grossir et d'autres doivent lutter en permanence. Et le moindre écart de régime est sanctionné par un kilo supplémentaire. Mais la question n'est pas là. Paul ne nous invite pas à nous comparer les uns aux autres, mais avec ce que nous sommes, il nous exhorte à avancer. Paul nous invite ici, quel que soit notre tempérament, à vivre dans la confiance en Dieu. Il nous invite à lui parler de nos besoins, de nos préoccupations, de nos projets, pour que, par son esprit, il puisse nous conduire, nous accompagner dans toute notre vie. C'est un moyen pour vivre dans sa présence, en communion avec lui, en lui faisant part de chaque aspect de notre vie et en le remerciant pour les exaucements de prières, pour son aide et sa fidélité à chaque instant. Ne pas s'inquiéter n'est pas chose facile dans un monde exigeant d'une part et dans lequel les dangers sont nombreux. On a peur pour ses enfants de perdre son travail, on a peur des attentats, des vols, des agressions, des maladies. On peut continuer longtemps la liste. Pour arriver à ne pas s'inquiéter, nous devons vraiment apprendre à faire confiance à notre Dieu, à accepter de ne pas tout contrôler, car nous savons que Dieu, lui, est au-dessus de tout et qu'il maîtrise tout. Nous pouvons lui remettre nos peurs, nos inquiétudes, et surtout lui demander sa paix, l'apaisement devant ce qui nous paraît être des montagnes impossibles à franchir. Cela ne se fera pas en un jour, mais c'est certain, nous pouvons progresser dans ce domaine. Et nous arrivons au quatrième point, qui se trouve au verset 8, et c'est le verset qui m'a interpellée en premier lieu dans ce passage. Et le verset commence par « enfin », comme si les autres recommandations devaient nous conduire à ce point important. L'appel à la recherche de ce qui est bon. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Avec quoi nourrissons-nous nos pensées? Notre vie trépidante ne nous laisse souvent pas beaucoup de temps pour nous poser et réfléchir. Une grande partie de notre temps est pris par le travail, les études, s'occuper des enfants, des repas, etc. Et quand vous avez un peu de temps, que faites-vous? Certains consultent leur smartphone, Facebook, WhatsApp. D'autres font des jeux, regardent la télé, écoutent de la musique, lisent un bon bouquin. Cette recommandation de l'apôtre Paul fait réfléchir. Cela semble tellement impossible, à moins de devenir moine ou de se retirer du monde. Si on met dans la balance le temps passé à nos occupations et le nombre d'informations diverses que nous emmagasinons avec le temps passé à l'église ou que nous mettons à part pour prier et méditer la parole de Dieu, il n'y a pas photo, nous avons un problème. Nous nous rendons compte que nous nous nourrissons beaucoup plus de la pensée du monde. Nous sommes envahis par les médias, les problématiques de notre monde, la politique, les problèmes de société, les catastrophes naturelles, nos propres problèmes. Et le temps que nous passons à nous instruire par la parole de Dieu, par des lectures chrétiennes, par des discussions entre frères et sœurs, par la prière, est infime et ne pèse pas lourd dans la balance de nos activités. Mais comment l'apôtre Paul peut-il nous recommander de nourrir nos pensées de ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour et d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Je veux bien que les temps changent, que l'on court toujours plus, mais je ne pense pas qu'à l'époque la vie était tellement différente. Il est évident que nous ne pouvons pas passer notre journée à lire notre Bible. Nous avons un travail, il faut entretenir la maison, manger, dormir. Entre tout et rien, il y a une marge de manœuvre. Et est-ce que c'est une question de temps passé ou d'attitude que nous avons au quotidien? Je suis souvent attristée par mon manque de progrès spirituel, ma difficulté à rester en communion avec Dieu, mes travers qui ressurgissent constamment. L'apôtre Paul nous donne ici une clé pour progresser. Je pense qu'il ne s'agit pas du temps que l'on consacre à l'étude de la Bible, mais d'une volonté de rechercher ce qui est vrai, noble, bon, etc. Je vois cela comme une discipline de chaque instant, de rechercher le vrai, le beau, le noble, et surtout d'éviter ce qui nous entraîne vers ce qui déplaît à Dieu, que ce soit dans nos conversations, nos lectures, ce que nous regardons. Nous devons lutter pour ne pas nous laisser influencer par le mal, la convoitise, la jalousie, la rancune, la critique. Au verset 18 du chapitre 3, nous lisons « Car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix du Christ. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. » Il s'agit réellement d'une discipline personnelle, d'une volonté qui va permettre à l'Esprit Saint d'agir en nous et nous délivrer de nos mauvaises pensées. Il va pouvoir nous transformer petit à petit. Mais en fait, est-ce qu'il y a une pensée chrétienne? C'est une grande question. D'une part, il y a une seule vérité, la parole de Dieu. C'est elle qui est la norme, qui doit forger notre pensée, qui doit être la référence pour décider ce qui est bien et ce qui est mal. Mais d'autre part, il n'y a pas une pensée unique qui doit être la même pour tous les chrétiens. Par exemple, il y a des opinions politiques différentes. Aucun parti politique ne détient la vérité. Il y a de bonnes choses et de moins bonnes choses dans chaque idéologie. D'ailleurs, les plus gros problèmes avec les hommes politiques sont la corruption, la recherche du pouvoir, l'orgueil, le mensonge, la recherche de leur propre intérêt. Il y a eu dans les églises, et il y a peut-être encore, une tendance à vouloir imposer des règles de conduite dans ces domaines qui dépassent les enseignements bibliques. Par exemple, bon, ça date de mon enfance, hein. Il ne fallait pas aller au cinéma. On parlait de musique satanique ou ce genre d'interdit. C'est une façon d'imposer des normes qui deviennent vite du légalisme. C'est un peu comme quand pour protéger un enfant, on ne lui laisse aucune autonomie. Ce n'est pas une solution. Il faut que l'enfant puisse faire ses expériences et apprendre progressivement à être autonome, à voir et éviter les dangers. C'est comme cela qu'il grandira et deviendra responsable. Pour le chrétien, Paul ne dit pas ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Il fait des recommandations pour permettre à chacun de grandir dans la foi. Si une activité ou une compagnie nous conduit à négliger nos devoirs envers l'Église ou notre famille, ou nous conduit à critiquer, dire du mal des autres, il faut avoir la sagesse d'arrêter. Ce qui occupe nos pensées va déterminer nos comportements. Cultiver une hygiène de notre pensée, c'est rechercher le bien, ne pas laisser le mal imprégner nos pensées. C'est en quelque sorte simplement fuir le péché. Quand un enfant fait des bêtises, on entend parfois des parents dire qu'il s'est fait entraîner par de mauvaises relations. On ne peut pas retirer l'enfant et l'isoler, comme nous ne pouvons pas quitter ce monde. Il faut que l'enfant apprenne par lui-même à faire les bons choix, à s'entourer des bonnes personnes, s'il n'arrive pas à résister à la pression du groupe. Nous sommes chacun responsables de cultiver une pensée qui permette à l'Esprit de Dieu d'agir en nous et de vivre en nous. Le programme est exigeant. Et à la fin du passage que nous avons lu, Paul dit simplement aux Philippiens, « Mettez en pratique. » Nous sommes tout simplement appelés à aller de l'avant et mettre en pratique ce que nous avons entendu et également à suivre l'exemple de Paul et des modèles que doivent être les chrétiens affermis, adultes dans la foi. Paul ne fait pas un long développement pour nous dire de mettre en pratique. C'est une simple phrase. C'est pourtant le plus difficile. Intellectuellement, nous avons appris et compris beaucoup de choses. Mais nous sommes tellement en retard dans la mise en pratique de tout ce que nous savons. Il n'y a pas 36 solutions. La directive est simple. Il faut se mettre en route et avoir cette volonté d'aller de l'avant avec les exhortations que Paul nous a données. En nous réjouissant de ce que Dieu a fait dans nos vies, une petite rétrospective nous aide à voir le chemin parcouru, même si le but à atteindre est encore loin. En veillant sur notre comportement et notre langage pour être reconnus comme dignes de confiance, en partageant avec Dieu à tout instant, par la prière, nos préoccupations, nos joies et nos peines et notre reconnaissance, et en nourrissant notre pensée par tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour et d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Alors, nous dit Paul, Dieu qui donne la paix sera avec vous et il gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, quelle belle promesse! Ne nous privons pas de cette paix que Dieu nous a promise. Amen. Je vous invite simplement à un petit moment de silence, de méditation. Ce que tu nous demandes peut nous paraître difficile, difficile à vivre. Mais Seigneur, tu ne nous condamnes pas. Tu veux simplement nous aider à grandir en toi. Tu nous montres le chemin pour vivre cette paix que tu veux nous donner, pour vivre dans cette joie que tu veux nous donner. Tu veux vraiment que nous soyons confiants en toi, que nous puissions avancer, apprendre à aimer, apprendre à t'aimer toujours plus, apprendre à aimer tous ceux qui nous entourent. Oui Seigneur, aide-nous vraiment à te laisser agir en nous. Aide-nous vraiment à te laisser remplir nos pensées, à te laisser nous conduire à chaque instant de notre vie. Donne-nous cette volonté de fuir ce qui nous éloigne de toi. Seigneur, que vraiment tu nous conduises dans chaque instant de nos vies. Et aide-nous aussi à être reconnaissants pour tout ce que tu es pour nous.